Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin, dans Chrétien d'Orient, c'est en compagnie de Claire Lefort que nous allons découvrir une communauté peu connue, celle des Sabéens mandéens. Premier baptiste, dernier gnostique, d'après le titre d'un petit ouvrage qui vient de sortir et que je recommande sans aucune réserve, tant il m'a intéressé, ému, touché, bouleversé. Tant la survie de cette communauté jusqu'à notre époque tient du miracle, avec les difficultés religieuses et les discriminations à leur égard. Une communauté dont les plus anciennes traces, dites-vous, remonteraient à l'époque sumérienne, soit plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et vous parlez aujourd'hui d'une possible extinction dans leur berceau de Bassora. Alors nous sommes dans le sud de l'Irak, dans cette région des marais, je crois. Claire, bonjour.
Bonjour.
Les plus belles rencontres, écrivez-vous en introduction, naissent parfois d'un hasard. Ce fut mon cas pour les Sabéens mandéens. Partis effectuer une enquête de terrain anthropologique en Jordanie, auprès des minorités réfugiées d'Irak, je pensais m'intéresser d'abord à la situation des chrétiens et des yézidis. Jusqu'à ce jour de mars 2016, où, par le biais d'une association avec laquelle je travaillais, nous avons été conviés à une cérémonie religieuse mandéenne. Que s'est-il passé ?
C'est un pur hasard. Je suis partie en Jordanie pour travailler auprès des réfugiés irakiens, qui sont très nombreux à Amman, la capitale. Et au regard de l'actualité, de ce qu'on entend beaucoup dans les médias occidentaux, je m'attendais à travailler effectivement avec des chrétiens et des yézidis. Et un jour, par hasard, nous intervenions dans un quartier où de nombreux chrétiens irakiens réfugiés habitent, et nous sommes tombés presque sur une famille qui nous a dit être irakienne, non musulmane, non chrétienne, non yézidi, et du coup c'est comme ça qu'on les a rencontrés.
Et que vous disent-ils alors? Comment se décrivent-ils eux-mêmes?
Ils sont les disciples de Jean-Baptiste. Comme vous l'avez dit, c'est une communauté qui est à la fois gnostique et baptiste. Ils sont héritiers d'une part des religions mésopotamiennes qui se sont développées notamment près du Tigre et de l'Euphrate et qui se sont tournées peu à peu vers le monothéisme avec des rites liés à l'eau très forts. Et entre le 1er et le 3e siècle, ils auraient été rejoints par les disciples de Jean-Baptiste qui le suivaient sur les bords du Jourdain et n'ont pas voulu se rallier aux disciples du Christ et ont dû fuir, donc ces baptistes ont dû fuir les persécutions dont ils faisaient l'objet. Et plus à l'est du Jourdain, les cours d'eau qu'on rencontre sont le Tigre et l'Euphrate. Il y a eu donc un phénomène de syncrétisme et c'est un moment très important dans la théologie, les textes mandéens, puisque Jean-Baptiste devient ainsi le dernier, le plus important prophète pour cette communauté.
Alors nous verrons tout à l'heure combien est importante la présence de l'eau, à la fois dans leur rituel, mais même dans l'essence même de cette communauté, l'eau vive, l'eau courante. Je voudrais juste préciser quelques petites informations pour nos auditeurs avant de nous enfoncer plus en avant dans ce projet. C'est que vous avez 21 ans, vous êtes une toute jeune étudiante, vous êtes à l'école normale supérieure et en même temps à l'école des hautes études en sciences sociales, où vous êtes un master. Donc certainement en prévision d'un doctorat où vous étudiez la géopolitique et l'anthropologie. C'est pas mal.
Oui, c'est très complémentaire en fait.
Bon, donc vous avez l'ambition, ce livre qui était aux éditions du Cygne n'est pas très long pour le moment, c'est 88 pages. Mmh. Le style est très bien, vous expliquez de manière très claire cette communauté donc des Mandéens que nous ne connaissons pas, parce que j'ai découvert en fait en vous lisant qu'il y a très très peu d'études sur ce sujet.
C'est vraiment ce qui m'a marqué au départ. Très vite dans les rencontres que j'ai pu faire, les temps que j'ai passé avec les membres de cette communauté, tous m'ont dit, les gens ne nous connaissent pas. Quand on parle de l'Irak, qu'on parle des communautés non musulmanes en Irak, on parle des chrétiens. Plus récemment, on parle des yézidis, mais des mandéens, jamais. Alors, c'est lié, d'une part, à une attention qui a été portée très récemment sur les populations qui ont été déplacées dans le nord de l'Irak, dans la région de Mossoul, où les mandéens ne sont pas, puisque eux sont originaires du sud du pays. Et c'est lié aussi à une méconnaissance attachée à cette communauté. Le dernier ouvrage en français qui lui a été consacré date de 1930. Donc c'est énorme, presque un siècle en fait. Et alors effectivement, cet ouvrage est très court et je le voulais ainsi. Au départ, je ne pensais pas du tout écrire sur cette communauté parce que pour moi, d'autres l'avaient fait, l'avaient très bien fait et je n'avais ni le bagage ni le support pour pouvoir accomplir un tel travail. Et ce sont eux qui m'ont demandé, à la fin de mon séjour en Jordanie, qui allait être suivi d'autres...
Donc les mandéens que vous avez rencontrés,
oui,
vous-même.
Ce sont eux qui m'ont dit à la fin de... J'ai passé 6 mois en Jordanie et ils m'ont dit « Que vas-tu faire avec tout ce que tu as récolté, avec tout le temps que tu as passé avec nous ?» Et donc je leur ai expliqué que c'était pour un travail de recherche, pour un visa académique. Et ils m'ont dit « Il faut que tu écrives quelque chose sur nous. Il faut que tu dises aux gens... qui on est et ce qu'on endure aujourd'hui.
Vous les avez enregistrés, ce sont des conversations, comment s'est passé se sont passés ces échanges, votre technique de travail?
Alors je n'enregistre pas, ce qui est peu courant, souvent pour des chercheurs en sciences sociales. Je n'enregistre pas parce qu'ils me l'ont demandé. Ils sont dans une situation en Jordanie qui est extrêmement précaire. Ils se sentent dans une très grande vulnérabilité, expulsable à tout moment. Ils ont interdiction de se rassembler. Ils n'ont l'autorisation de pratiquer leur rite que dans une portion de rivière qui est au nord de la capitale jordanienne. Et donc eux m'ont dit, on est prêt à te parler, on est prêt à passer autant de temps que tu le souhaites à tes côtés, à répondre à tes questions, mais n'enregistre pas. Tu peux prendre toutes les notes que tu veux. Si jamais il devait se passer quoi que ce soit, on peut toujours prétendre que c'est toi qui as écrit, mais que nous, on n'a jamais dit de telle chose. Donc, il n'y a pas d'enregistrement. Ça a été des prises de notes à un rythme très soutenu. Et beaucoup, beaucoup de temps passé à... D'abord à les écouter, à comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. Et puis ensuite à faire des recherches, une fois de retour en France, en me disant « c'est pas possible, il y a forcément des choses qui ont été écrites ». Et donc en français, non. Et en anglais, il y a les travaux de Ethel Drower, qui est une anthropologue britannique, qui a travaillé sur la communauté des Sabéens mandéens dans les années, fin des années 30, années 1960 à peu près, qui a fait un travail remarquable en termes de traduction des textes, en termes de compréhension de cette communauté. Mais depuis Ethel Drower, il n'y a rien eu. Donc rien en fait qui retrace les changements récents auquel doit faire face cette communauté.
Alors vous dites qu'à partir de 2003 et la déstabilisation de l'Irak, le processus, disons, d'éradication s'est accéléré.
Oui. Les Sabéens mandéens ont toujours fait l'objet d'une discrimination assez marquée parce qu'ils refusent la circoncision, qu'ils considèrent non pas comme un acte de purification, comme on peut le trouver dans d'autres traditions, mais pour eux, la circoncision revient à porter atteinte au corps qui a été donné par Dieu, donc à considérer que ce corps est imparfait. Et du coup, dans la tradition sabéenne, la purification s'obtient par le rite du baptême. Et à cause de ce refus de la circoncision, ils sont considérés en Irak et en Iran, puisque ce sont les deux pays dont ils sont originaires, comme impurs. Et donc toucher un sabéen, manger dans un plat qui a été touché par un sabéen, revient à porter cette souillure. Et donc la vaisselle va être détruite, on refuse de leur serrer la main, etc. Cette situation de ségrégation, vraiment, qui est très semblable dans les situations qu'ils me décrivaient à ce qu'on peut trouver, par exemple, ce qu'on pouvait trouver au temps de l'apartheid en Afrique du Sud ou pendant la ségrégation aux États-Unis.
Ou ce qu'on appelle les intouchables, peut-être, dans le système des castes.
Oui, aussi.
Donc on a l'impression vraiment d'une communauté à part, singulière, on verra après un peu plus sur l'histoire, sur les langues, etc., sur leurs rituels, qui est en bas, si vous voulez, de la société.
Non, pas en bas de la société.
Pourquoi ?
Pas en bas parce que cette souillure qu'on leur attache pour un motif de pratique religieuse. En même temps, jusqu'à 2003, les Sabéens-Mandéens ont été parmi les premières populations, notamment dans le sud de l'Irak, à pousser leurs enfants à aller à l'université de façon très très marquée. Un des premiers directeurs de l'université de Bagdad était Sabéen. Il y a de très grandes figures, un astronaute qui a donné son nom d'ailleurs à une petite planète. Donc les Sabéens sont jusque dans les étoiles, si on peut se permettre cette phrase. De nombreux poètes aussi, femmes comme hommes, sont d'origine sabéenne.
Donc se démarquer, s'en sortir par l'éducation.
La tradition gnostique est attachée à une pratique des textes qui du coup a influencé une démarche intellectuelle qui se retrouve à l'échelle de la société et qui, pour revenir à votre question tout à l'heure, après 2003 a été très fortement mise à mal puisqu'on a eu, et je vais passer très vite et je m'en excuse auprès de nos éditeurs parce que la situation est beaucoup plus complexe que je ne peux vous l'expliquer, on a eu un phénomène de crispation identitaire, communautaire, qui s'est fait pas uniquement, mais beaucoup autour de la religion.
En Irak, hein ?
Oui, en Irak. Et qui, du coup, a amené dans un contexte de violence endémique qui s'est peu à peu développée, qui a été accrue par la guerre civile de 2006. Des petites communautés qui, souvent, n'étaient pas musulmanes, qui, du coup, sont devenues des cibles de choix. Et pour le cas des Sabéens-Mandéens, cette crispation religieuse, qui n'est absolument pas tout, c'est doublé de différents facteurs. D'une part, le fait que, traditionnellement, ce sont des orfèvres, des bijoutiers extrêmement réputés, donc qui avaient un certain niveau de vie, ou une tradition dans le travail de l'or, de l'argent, donc de matières précieuses riches, une tradition qui a déclenché des convoitises auprès d'autres populations. Également le fait que, dans la tradition mandéenne, il y a un refus total et absolu de la violence, qu'elle soit physique, morale, verbale. On ne fait jamais de mal à autrui, même pour se défendre. L'autodéfense n'est pas possible. Donc, de fait, tous ces éléments ont fait des Sabéens mandéens, outre leur poids numérique inférieur, des cibles de choix pour des groupes qui se prétendaient à motivation religieuse, mais qui avaient des motivations bien réelles, comme économiques, par exemple.
Mon nom est Loubna, écrivez-vous. Je suis mandéenne, originaire de Bassora, dans le sud de l'Irak. Ma famille et moi avons dû fuir notre pays en raison de la violence qui y règne, notamment à l'encontre de notre communauté. C'est un témoignage que vous recueillez. Ce fut un choix difficile, car c'est la terre de nos ancêtres, là où nous avons nos racines. Mais quand ce pays est incapable d'assurer la protection des miens, je ne peux choisir d'y rester. Il en reste quelques milliers, je crois, dans le sud de l'Irak. Et le reste de la communauté vit à l'étranger. Et en France, j'ai appris qu'il y avait une petite communauté en Touraine.
Absolument. On compte à peu près aujourd'hui, les chiffres varient, moins de 100 000 Sabéens-Mandéens dans le monde entier. D'après certaines sources, et encore une fois, c'est très compliqué à vérifier.
Parce que c'est secret ? Ce sont des informations qui ne circulent pas ?
Non, parce que la démarche de recensement est compliquée. D'après les différentes sources que j'ai essayé de croiser, au début du XXe siècle, ils auraient été, si on compte les chiffres d'Irak et d'Iran, entre 600 et 800 000. Aujourd'hui, on en compte moins de 100 000 dans le monde entier, donc c'est très peu. Ils sont en Irak, on compte moins de 300 familles, et ce sont principalement des familles qui n'ont pas eu les moyens financiers ou en termes d'appui familiaux ou communautaires de quitter le pays.
Les plus pauvres.
Voilà, exactement. Quitter l'Irak, ça demande d'être, comme les frontières sont fermées, ça demande de pouvoir payer un billet d'avion, des visas. Donc c'est un luxe, malheureusement, que toutes ne peuvent pas se permettre.
Nous sommes ce matin avec Claire Lefort, Les Sabéens Mandéens, un petit livre qui vient de sortir aux éditions du Cygne. Premier baptiste, dernier gnostique. Alors le mot même de mandéen vient de l'araméen mandaya, qui signifie connaissance ou gnose. Mmh. Expliquez-nous un petit peu.
Alors les mandéens ne sont pas du tout la seule communauté gnostique. De façon très schématique, et encore une fois, je m'en excuse. Dans la tradition gnostique, le monde n'a pas été créé par Dieu, mais par un démiurge mauvais, qui, en créant ce monde matériel, vise à empêcher l'homme d'accéder à la connaissance et à Dieu. Et donc c'est par la pratique des textes, par la gnose, que le croyant va pouvoir accéder à la vérité et à la connaissance divine.
Et donc ces communautés entretiennent finalement une tradition millénaire, mais est-ce qu'il y a des textes, est-ce qu'il y a une écriture singulière, est-ce qu'il y a un ésotérisme qui leur est propre, par exemple?
Ils ont des livres saints. Les Sabéamandéens représentent la troisième religion du livre dans la tradition islamique, qu'on oublie souvent. On parle des juifs, on parle des chrétiens, mais il y a une troisième communauté qui est appelée Sabéens, et qui a fait l'objet de beaucoup de controverses, beaucoup de discussions, qui fait que ce statut de gens du livre et la tolérance qui devrait leur être accordée leur a été très souvent niée. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Ils ont un livre saint, la Ginzarabba, qui signifie le grand trésor, qui est rédigé en dialecte araméen, qui est, nos éditeurs le savent certainement, la langue parlée par le Christ, mais pas uniquement. Et donc ce dialecte mandéen est la langue utilisée pour les cérémonies, pour les hymnes, dans les textes religieux. Et outre donc cette Ginzarabba, il existe également d'autres textes religieux, d'autres textes saints, dont beaucoup ont été traduits en anglais par Essel Drower, l'anthropologue
dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. J'ai l'impression que même à la Bibliothèque nationale de France, il existe des manuscrits. J'ai vu qu'il y avait, dans un inventaire fait en 1874, il y en a eu 16, quelque chose comme ça. Donc finalement, cette communauté était connue par les textes, par la tradition écrite, mais finalement, on savait pas qu'il y avait encore des gens qui l'entretenaient comme un rite dans leur famille.
Alors, avant les travaux d'Ethel Drower, dans les années 1930-1960, on s'intéressait beaucoup aux Mandéens pour ce qu'ils pouvaient apporter à la compréhension des études bibliques, parce que ils étaient très liés aux premiers chrétiens par leur croyances, par leur localisation géographique aussi, et ça a vraiment été ce retournement qu'on doit à Essel Drower de choisir d'étudier les Sabéamandéens pour eux.
Pour eux-mêmes,
non exactement.
Pas ce que les fantasmes qu'on peut projeter sur eux, peut-être.
Exactement. Et aussi, c'est lié aussi à cet attrait biblio-orienté, si on peut dire ça ainsi, est lié au fait que pendant très longtemps, on les a appelés les disciples de Saint Jean, sans savoir si c'était Saint Jean l'apôtre ou Jean le Baptiste. Et donc, il y avait un flou en plus autour de cette dénomination, de populations qui pratiquent le baptême, qui croient en Jean, est-ce que finalement il serait pas aussi chrétien, mais une branche du christianisme qu'on connaît très mal? Et donc pendant très longtemps, il y a une méconnaissance ou une incompréhension attachée à cette communauté.
Est-ce qu'ils continuent d'une certaine manière aussi la tradition manichéenne, peut-être?
Ils sont influencés par le manichéisme. Ils ont été, outre, je vous parlais plutôt de l'influence des religions mésopotamiennes, la théologie mandéenne est dualiste. Et elle doit beaucoup aux religions qui sont développées dans la Perse antique, le manichéisme, les enseignements de Mazdak, le zoroastrisme aussi, avec évidemment beaucoup de divergences. Mais on retrouve des points très intéressants et qui se recoupent.
Donc là, on a une religion pré-chrétienne, pré-musulmane, pré-beaucoup de choses. Mmh. Donc ce terreau mésopotamien, il y a peu d'autres exemples quand même.
De religion qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, très peu. Très très peu. Et c'est ce qui est passionnant, c'est que en s'intéressant aux Sabéamandéens, on s'intéresse à des millénaires d'histoire et à des communautés extrêmement nombreuses, avec à des liens qui se sont noués, des faits, des enjeux aussi, qui ont impacté des moments très importants et qui impactent encore aujourd'hui. Et c'est une plongée culturelle passionnante.
Alors cette communauté, donc, comme nous l'avons dit, qui est obligée de quitter son berceau irakien, s'installe de plus en plus dans la diaspora quand ils le peuvent, quand ils en ont les moyens financiers. Mmh. Et vous dites bien qu'ils doivent s'installer à côté d'un fleuve, à côté d'un endroit où il y a de l'eau courante. Mmh. Pourquoi cet attachement à l'eau?
Dans la tradition mandéenne, l'eau est le plus important des éléments, parce qu'il jaillit du royaume de lumière, qui est le nom donné à l'endroit où réside le dieu mandéen. Et cette eau jaillit directement du royaume de lumière dans le monde matériel et mortel. Il est donc source de vie. Et le baptême, à ce titre, est à la fois un acte de purification, mais aussi de communion avec cet élément qui jaillit du royaume de lumière. Mais pour que l'eau jaillisse, le baptême n'est valable que dans de l'eau courante, c'est-à-dire un cours d'eau, un fleuve, une rivière. Une mare, un étang, par exemple, rend le baptême invalide.
l'eau doit partir couler. Après,
absolument.
Doit couler. Vous avez assisté vous-même déjà à des cérémonies mandéennes, dans quel contexte?
En Jordanie, à deux reprises, j'ai assisté à ce qu'on appelle les 5 jours blancs, qui sont leur nouvel an religieux, au mois de mars. C'est la première rencontre qu'il m'a été donné de faire avec cette communauté sur le plan religieux, vraiment. Et ensuite, au moment de ce qu'ils appellent le baptême d'or, qui commémore le baptême du premier homme, Adam, par l'envoyé mandéen, et qui est au mois de mai. Et ensuite, donc, ces cérémonies avaient lieu dans des cours d'eau, dans une portion de rivière, qui a été octroyée par le gouvernement jordanien, après des années de négociations, à la communauté mandéenne réfugiée. Et j'ai eu la possibilité aussi, non pas d'assister à des baptêmes directement, mais visiter des lieux qui ont été mis en place par la diaspora en Suède, qui est le deuxième pays d'établissement de cette communauté, en Irak, dans le nord de l'Irak, au Kurdistan.
Alors on voit une très belle photo sur la couverture de votre livre. De quoi s'agit-il? Un homme qui est en train de baptiser un autre homme? Ils sont vêtus de blanc dans cette rivière. C'est une photo que vous avez prise vous-même?
Oui, c'est une photo qui a été prise au moment des 5 jours blancs en Jordanie. On voit donc un religieux, un Tarmiza, qui est le nom donné à l'équivalent des prêtres, baptiser un autre homme dans des vêtements blancs qu'on appelle al-Rasta et qui sont les vêtements de cérémonie. Comporte plusieurs couches. Il y a très brièvement un pantalon, une chemise un peu ample, une ceinture, une coiffe et un ruban de tissu qui est utilisé pour des visées cultuelles. Le rituel du baptême tel qu'il est pratiqué par les mandéens aujourd'hui est dit, alors je n'étais pas là pour vérifier, mais dit inchangé depuis l'époque de Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain.
Nous étions ce matin en compagnie de Claire Lefort pour évoquer un livre qui vient de paraître aux éditions du Cygne, Les Sabéens Mandéens, premier baptiste, dernier gnostique. Merci Claire.
Merci à vous et merci pour eux.
Nous retrouvons maintenant le service protestant, mais je voudrais remercier Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Bernard Laniel pour la réalisation de cette émission. Bon dimanche, merci.